des dizaines, des centaines de cailloux et de pavés qui volent maintenant. Il y a deux voitures, pour quatre voitures qui sont retournées.
Et voici les fusées, les premières fusées qui arrivent. Attention! Attention! Les premières fusées tout près de nous, ne vous appelez pas si vous avez...
Format A3 qui vous propose donc un voyage dans le temps ce matin.
Jusqu'à 9h, on se replonge dans les événements de mai 68 avec un invité qui a vécu cette période de l'histoire de l'intérieur.
François Grosjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de l'université de Neuchâtel et en mai 68, vous étiez étudiant en anglais dans la capitale française. Vous étiez un étudiant prêt à renverser des montagnes.
Peut-être un peu. Disons que j'étais en quatrième année, donc je connaissais bien l'université française, je connaissais bien ses problèmes. Et lorsque mai 68 est arrivé, et après, si vous voulez, les manifestations et les barricades, etc., il y a eu un temps de réflexion et c'est là où j'ai été le plus actif.
Alors les événements débutent précisément le 3 mai. Comment ça a démarré et comment ça se ressentait de l'intérieur ?
Alors, c'est intéressant parce que j'ai vraiment vécu ce 3 mai. Je revenais de mon petit travail comme moniteur de phonétique anglaise et je suis passé justement devant la Sorbonne et j'ai vu toute une série de cars de CRS, de police. Et en me renseignant, j'ai appris qu'en fait, la police, les CRS, étaient rentrés dans la Sorbonne. Ce qui est une chose, à l'époque, c'était une chose très très rare, n'est-ce pas ? La Sorbonne, l'université était un territoire qu'on n'occupait pas quand on était la police. Et après, peu à peu, j'ai appris qu'en fait, il y avait eu un petit meeting de rien du tout, presque, dans la cour de la Sorbonne. Mais quand on a dit aux étudiants qui y étaient, dont Daniel Cohn-Bendit, qu'il y avait des étudiants de droite, d'extrême droite qui arrivaient, ils se sont armés, entre guillemets, de bâtons de chaise, de pieds de chaise, etc. Et devant une violence potentielle, parce qu'il n'y en a pas eu, le recteur a d'abord fermé les amphithéâtres, ce qui est une très mauvaise chose parce que tous les étudiants sont arrivés dans la cour de la Sorbonne, donc il y avait maintenant une foule beaucoup plus importante qu'avant. Et deuxièmement, il a appris la police est entrée et a embarqué tous ces étudiants, dont une toute petite minorité était des étudiants d'origine il y a quelques heures plus tôt, et la plupart n'avaient rien à voir avec la manifestation à l'intérieur de la cour. Et donc, nous autres dehors, on se disait, mais c'est totalement injuste, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils les embarquent ? Ces étudiants n'ont rien fait, ils étaient venus pour leur cours. Et finalement, ça a été une étincelle, et c'était une étincelle, si vous voulez, qui a fait tout démarrer. Si le recteur, ou surtout si la police n'avait pas embarqué ses étudiants, mais les avait laissés sortir librement, probablement qu'il n'y aurait pas eu de mai 68. Mais après, on avait des mots d'ordre, libération des étudiants, réouverture de la Sorbonne, retrait des forces de police du quartier latin, et il y a eu à ce moment-là 10 jours de violence.
À ce moment-là, ce jour de 3 mai, le sentiment qui plane, c'est lequel ? Est-ce que vous vous rendiez compte à ce moment-là que quelque chose d'important allait se produire ?
Absolument pas, absolument pas. Vous savez, c'est très intéressant d'avoir vécu la chose et ensuite de vivre l'histoire, racontée par d'autres, etc. Non, il y avait de temps en temps quelques petites manifestations dans le quartier latin, donc on avait l'habitude de voir des cars de CRS. Mais là, ce qui était nouveau, si vous voulez, c'est que devant l'injustice de cette arrestation d'étudiants qui n'avaient rien fait, une violence a démarré. Un premier pavé a été lancé, des grenades lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre. Et peu à peu, ça s'est très rapidement développé en violence, si vous voulez. Et ensuite, ça a duré toute cette soirée. Et le lendemain matin, les gens étaient ébahis. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a jamais vu ça dans le quartier latin. Des voitures renversées, des pavés, cette odeur de gaz lacrymogène. On ne comprenait pas, si vous voulez.
Est-ce qu'il y avait, au fil des jours, le sentiment de participer peut-être à une révolution ?
Non, je dirais que non, parce qu'en fait, la plupart d'entre nous étions choqués de ce qui s'était passé. Nous avions justement ces trois mots d'ordre, de libérer les étudiants qui étaient emprisonnés, certains arrêtés, certains ont été gardés, on leur a donné une peine de 2 mois, etc. Donc, devant cette injustice, on a d'abord manifesté, et on a fait beaucoup de manifestations cette première semaine, n'est-ce pas ? On ne voit pas ces manifestations dans les films qu'on montre maintenant. Et malheureusement, certaines personnes, ensuite, en fin de journée, le soir, commençaient à se battre contre les policiers. Mais nous pensions, la grande majorité, pensions que simplement en manifestant, en clamant notre colère, on pouvait obtenir justement ce qu'on a demandé, la libération des étudiants et le départ des policiers de la Sorbonne.
On a quand même l'impression, quand on vous entend maintenant, qu'il y avait tout de même quelque chose qui planait, et puis qu'il y a cet événement-là, hein, dont vous parliez, qui a tout de même mis, si j'ose dire, le feu aux poudres. Il y a quand même quelque chose qui bouillonnait depuis quelque temps.
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'université était dans un mauvais état, n'est-ce pas ? Et malheureusement, étant binationale, donc français et suisse, je me rends compte également de la situation actuelle. Elle n'a pas énormément changé, mais si vous voulez, on sentait que les amphithéâtres étaient surchargés, les conditions de travail étaient mauvaises, l'université était vraiment une tour d'ivoire, et l'étudiant n'avait aucun droit de regard sur ses études. Donc il y avait, si vous voulez, un climat au moins au niveau de l'université qui n'était pas très, très bon. Mais je crois que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que très rapidement, cette manifestation violence, etc., a continué, et l'État, le gouvernement, ne voulait pas céder. Il a fallu attendre 10 jours et le retour de Pompidou d'Afghanistan pour qu'ils disent on arrête tout, on libère les étudiants, on libère la Sorbonne, on enlève les forces de police. Et je vous dis, le 13 mai, lorsque je suis allé, parce que j'habite un quartier latin, quand je suis allé à pied à la Sorbonne voir ce bâtiment, j'étais vraiment surpris. Et à ce moment-là a commencé une deuxième phase, n'est-ce pas ? Une phase moins violente, et une phase de réflexion et de critique et de discussion. Et c'est là où j'ai eu un mot à dire, si vous voulez.
Alors les manifestations, les barricades, la violence, vous habitiez en plein quartier latin, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Vous étiez vraiment au cœur des événements, tant au niveau de votre parcours d'étudiant que de votre vie de parisien.
Tout à fait. J'habitais peut-être à 500 mètres de la Sorbonne. Mon institut était 100 mètres de la Sorbonne, et j'avais des cours dans les amphithéâtres de la Sorbonne, donc j'étais vraiment en plein quartier. Et peut-être pour revenir sur ces premiers 10 jours, mes sentiments, mon ressenti, tout d'abord surprise qu'on puisse en arriver là aussi rapidement. Ensuite, inquiétude, bien sûr, parce que cette violence, je suis non-violent, hein, j'ai fait beaucoup de chantiers de service civil, justement de non-violence. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs jours de sentiments d'indignation. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette violence ? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ces étudiants, la plupart d'entre eux n'ayant rien fait du tout, sauf sortir de cours ? De leur cours. Et ensuite, peu à peu, un sentiment de « nous sommes dans un autre monde », d'incrédulité. Mais qu'est-ce qui se passe, si vous voulez ? Jusqu'à ce que la Sorbonne soit rouverte. Et c'est à ce moment-là que les étudiants ont pris possession non seulement de la Sorbonne, mais également des instituts autour. Et s'en est suivi, si vous voulez, à peu près 3-4 semaines de temps beaucoup plus calme, plein d'enthousiasme et de passion, parce qu'on pouvait finalement dire ce qu'on avait sur le cœur concernant au moins notre outil de travail qui était les études universitaires. Donc il faut bien décomposer ça en deux parties. Une partie violente qui a malheureusement de temps en temps repris, mais surtout après une partie de grands débats à tous les niveaux, n'est-ce pas, dans les grands amphithéâtres, mais également dans les instituts, dans les salles de classe, où on essayait de voir comment on pouvait changer les choses.
La peur quand même parfois à la vision de cette violence.
Pardon, excusez-moi.
La peur vous a aussi envahi parfois.
Oui, vous savez, tout premier petit segment donne un peu l'atmosphère. D'abord, c'était dans la rue, c'était bruyant, n'est-ce pas? Bruyant parce que il y avait les sirènes, les éclats de bombes, les éclats des bombes lacrymogènes. Il y avait les fous qui avançaient, qui reculaient, les gens qui criaient, les slogans dans les manifs, n'est-ce pas? Et aussi, il y avait constamment, pendant de nombreux jours, cette odeur persistante de gaz lacrymogène. Je me levais le lendemain à 6 heures, j'étais tout près de tout ce qui s'était passé. Je me promenais dans ce quartier latin que je connais bien, et il y avait cette odeur de gaz lacrymogène, il y avait des restes de pavés, des restes de barricades. C'était très très spécial. Alors après, comme je l'ai dit, dans la période un peu plus calme, c'était les amphithéâtres et les salles de réunion en fumée, comme on ne peut plus les voir maintenant. Mais tout de même, dans les petites réunions, dans les comités, etc., il y avait une ambiance de travail. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'il y a eu ce sentiment, si vous voulez, de passion et d'espoir.
Alors François Grosjean, on le disait, sous les pavés et la plage, vous êtes professeur de linguistique. J'imagine que les slogans de mai 68, c'est quelque chose qui vous a marqué aussi au niveau de la langue.
D'abord, ça m'a marqué en tant qu'individu de 22 ans, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé très innovateur, très beau. Il y en a tellement, n'est-ce pas? J'ai surtout aimé l'imagination au pouvoir, parce que nous voulions quelque chose de différent. Par exemple, un autre, je prends mes désirs pour la réalité, car je crois en la réalité de mes désirs. Ce sont de très beaux slogans. Il se trouve que j'avais des amis aux Beaux-Arts, et ils m'ont expliqué comment ça se passait pour les affiches, parce que les affiches, qui sont vraiment maintenant des œuvres d'art, n'est-ce pas, étaient fabriquées chaque soir et nuit, et ensuite étaient placardées dans les rues, sur les bâtiments, et on voyait des nouvelles affiches à chaque fois. Et c'est les slogans et les affiches vont vraiment ensemble et marquent, si vous voulez, à la fois visuellement et linguistiquement cette période. Oui.
Et dans cette période, il y a un personnage, on l'a dit, qui était incontournable. C'est Dany Le Rouge, Daniel Cohn-Bendit, qu'on écoute ici. Il est face au recteur de la Sorbonne.
Pour éviter toute effusion de sang, pour éviter qu'il n'y ait pas des morts ce soir, nous avons mis monsieur le recteur pour qu'il transmette à qui que ce soit les gens devant leurs responsabilités. Il fallait pour nous et il faut que la police quitte le quartier latin avant que quoi que ce soit puisse arriver. Et pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit, que monsieur le recteur demande à qui s'occupe de l'affaire maintenant en France, que la police quitte le quartier latin, alors toute effusion de sang, tout mort pourra être
Que vous avez répondu, monsieur le recteur?
Monsieur le recteur a dit qu'il allait faire transmettre ce que nous avons dit.
Alors, le bain de sang a été évité grâce notamment à la clairvoyance de Georges Pompidou. François Grosjean, il y a eu les manifs, il y a eu les barricades. Et puis, vous l'avez dit, après, il y a toute cette période de débat à l'université. Les choses ont changé.
Alors, on espérait que les choses changent, n'est-ce pas? On espérait. Ce qui était frappant d'abord dans cette discussion, c'est que nous étions des étudiants, des assistants, le corps intermédiaire. Il y avait même un professeur qui malheureusement vient de décéder, Antoine Cugnoli, professeur de linguistique, et dans notre institut. Et nous avons commencé à avoir des commissions pour changer le curriculum, donner plus de pouvoir, entre guillemets, aux étudiants, avoir un conseil d'institut, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, vous connaissez bien la France, le mois de juin est terminé et les gens partent en vacances. Et on s'est retrouvé avec tous ces dossiers de transformation, de volonté, de désir de changer, et deux mois d'arrêt, ce qui a été très déprimant pour nous. Mais ce qui s'est passé à la rentrée, c'est que le nouveau ministre de l'Éducation, Edgar Faure, d'ailleurs un voisin de nous, n'est-ce pas, un jurassien, il était député du Doubs, Edgar est très intelligent, Edgar Faure a dit « je vais créer deux centres expérimentaux, un en plein Paris à Dauphine et un dans le bois de Vincennes, le centre expérimental de Vincennes. Et je vais demander aux enseignants de mettre en pratique ce qui a été discuté pendant mai 68. » Et Vincennes donc embauchait. Moi, j'étais à un bon moment de ma carrière. J'ai postulé, j'ai eu un poste d'assistant qui n'est pas juste de faire sa thèse, mais c'est également d'enseigner. Et pendant 6 ans, j'ai pu mettre en pratique, si vous voulez, certaines des idées qui était sorti des discussions en mai 68. Donc ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, parce que c'était pas juste des idées autour d'une table, c'était des idées mises en pratique. Et parmi celles-là, par exemple, recevoir des non-bacheliers qui avaient dû arrêter leurs études, qui voulaient venir à l'université, ouvrir les salles de cours le soir et le samedi pour des salariés, accueillir, avoir plus de ponts avec le monde professionnel, accueillir des enseignants de l'étranger. On a eu de très bons enseignants de l'étranger qui venaient passer un an ou deux, et surtout un changement des études qui ressemble en fait comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a maintenant depuis quelques années en Bologne, dans le programme Bologne. Et tout ça en 69, 70, 71, etc. Donc très en avance. Alors, mai 68, au moins au niveau université, a eu cette, a donné la possibilité à certains centres expérimentaux de tester ces nouvelles études qui avaient été discutées, votées en mai 68.
Et ces événements, ils ont eu une influence sur votre vie, vos engagements et puis votre métier, votre façon d'enseigner aujourd'hui ?
Alors, totalement. Ça a vraiment eu un impact à long terme. Bon, vous me direz, c'est un bon mélange de mon côté anglo-saxon, un peu pragmatique, les idées de mai 68, mais ce que ça m'a donné, si vous voulez, pour le reste de ma carrière, c'est d'abord une écoute de l'autre, un respect de mes interlocuteurs. Parce que dans ces meeting qu'on avait, on s'écoutait, ce qui était assez rare dans une société francophone, si vous voulez. Les prises de décision en groupe aussi, je tenais beaucoup à ça dans ma carrière. Si possible, avoir de bons rapports avec mes collègues et les étudiants. Je me sentais très proche toute ma carrière des étudiants. Si possible, réduire la distance hiérarchique, bien que lorsqu'on est professeur, directeur, on reste bien sûr là-haut, mais tout de même essayer de réduire cette distance et toujours poursuivre le rêve d'améliorer les choses, de réformer. Et voilà, si vous voulez. Donc je crois que mai 68 m'a profondément marqué, en effet.
François Grosjean, on l'a peut-être un peu oublié, certains ne l'ont pas connu, mais dans les années 60, la société était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Le rapport à l'autorité, la place des femmes, la sexualité, les événements de mai 68, ils participaient de ce mouvement qui avait été initié peut-être en Angleterre, aux États-Unis, de changement de la société.
Oui, lorsque je parle de mai 68, je dis que je connais surtout mai juin 68. Mais bien entendu, j'étais étudiant et je vivais ces transformations sociales qui avaient commencé dans les années 60, même en France, et qui ont continué dans les années 70. Et ce que je regrette, si vous voulez, c'est que on mélange les deux maintenant, les événements précis de mai-juin et 68, et cette transformation sociale qui a duré 10, 15, 20 ans. Alors, en venant vers vous, je me suis demandé si mai 68, tel que je l'ai vécu et qu'on a vécu en France, avait peut-être contribué d'une certaine manière. Je crois que d'abord à accélérer ces mouvements sociaux, n'est-ce pas, qui avaient commencé et qui allaient continuer. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je crois que ça a libéré la parole. Je crois que les gens ont oser parler les uns avec les autres, avec les autorités. Bon, RTF, la radio nationale, était sous emprise des politiques, n'est-ce pas, du gouvernement. Ça a libéré la radio. Je crois que ça, c'est une chose vraiment importante en mai 68. Et c'est également la concertation. Je crois qu'au niveau des choses obtenues par le monde ouvrier, il y a eu la concertation, la participation qui était en mouvement. Je crois que ça, c'était très important. Et c'est surtout l'écoute de l'autre. Je dirais que ce qu'on en garde après, c'est que on veut écouter l'autre, on veut essayer de trouver une solution ensemble aux différents problèmes. Je vois mai 68 un peu, au moins ce que j'ai vécu, comme contribution à cette meilleure manière de vivre ensemble.
On peut dire finalement que cette fougue de certains étudiants de ce qui se passait à ce moment-là a ouvert des portes aussi à des ouvriers qui étaient aussi dans certains cas sur des charbons ardents et prêts à dire non, on n'en peut plus non plus. C'était une ouverture de porte au-delà de tout le monde d'étudiants.
Je crois que vous avez raison. Les étudiants ont essayé de faire un pont, de créer un pont avec le monde ouvrier. Les syndicats, je vous cache pas, n'étaient pas très contents. Et les jeunes ouvriers étaient beaucoup plus ouverts. Et ensuite, avec des centres expérimentaux comme Vincennes et Dauphine, on a pu continuer cela en disant, si vous voulez reprendre vos études, si vous voulez venir suivre un cours, un bloc de cours, venez. Et heureusement, si vous voulez, qu'on a continuer ce dialogue. Et on a permis à certaines personnes qui n'osaient pas, n'est-ce pas? Moi, j'avais des cours du soir, à 9h du soir, 10h du soir. Les gens me disaient, mais avant que Vincennes ne soit là, je n'osais pas penser même une seconde à venir à l'université. Et cette ouverture de l'université vers la société est, je crois, un des produits de mai 68.
François Grosjean, s'il ne fallait retenir qu'un moment, une phrase de mai 68, pour vous, ça serait quoi? Ça serait quel moment? Ça serait quelle phrase?
Pour ma phrase, je ne sais pas très bien, peut-être un des slogans. Mais le moment, on termine avec un petit sourire, c'est quand la presse anglaise et américaine venait à l'Institut d'anglais, et comme j'étais bilingue, j'étais souvent interviewé. Et une des personnes qui m'a interviewé est Olivier Todd pour la BBC, Et on était en plein film, il était en train de me poser des questions, il a dit « qu'est-ce qui s'est passé hier ?» Et j'ai dit « il y a eu une manie ». En anglais, il y a eu une manifestation violente. Et il a dit « arrêtez de filmer, il faut dire très violente ». Ah bon, d'accord. Voilà.
Déjà de la mise en scène.
J'avais 22 ans, je connaissais pas le journalisme. Alors on a repris, j'ai dit très violente. Et j'ai raisonné de la manière suivante. Olivier Todd vivait ça à la française, et il fallait absolument dire très violent, ou traduire ça very violent. Et moi je raisonnais à l'anglaise, si vous voulez, parce que je savais que je m'adressais à un public anglophone, et simplement « violent » suffit en anglais, c'est déjà fort, n'est-ce pas? Et je l'ai revu plusieurs fois après B68, jusqu'à il y a quelques années, et je me taquinais là-dessus. J'ai dit « mais tu m'as en fait censuré
». François Grosjean, c'était absolument passionnant de se replonger avec vous dans les événements de mai 68. On vous remercie infiniment. Oui, Jean-Michel?
En deux mots, vous aimez en reparler aujourd'hui?
J'aime beaucoup en reparler, ça m'a permis de reprendre un tout petit peu. J'écris en fait mon autobiographie, j'ai un contrat avec Oxford University Press, et je venais de faire le chapitre sur mai 68 avant que cette période arrive, et donc ça m'a fait plaisir. Mais surtout, je crois que c'est important qu'il y ait des témoignages. Je crois que tout ce qu'on est en train d'écouter, de voir à la télévision, les gens doivent en avoir marre, si vous voulez, mais on n'entend pas suffisamment de témoignages de personnes qui ont vraiment vécu des moments à ce moment-là.
Merci beaucoup, c'était fascinant pour nous aussi.
Oui,
c'était
pas gentil. Merci
à
beaucoup.
À retrouver tout à l'heure sur la page de Format A3. On vous souhaite plein de beaux printemps pour la suite, et on vous remercie d'être venu ce matin.
Merci beaucoup.
Bonne journée.